Patrick vient de le rappeler, donc ce que je vais vous dire se situe entre l'intervention de Patrick Rayou, l'autre, hier et celle de Marceline demain, qui peut-être donnera plus d'exemples précis d'observations de classe. Donc ce que nous nous sommes attachés à faire dans ce bouquin, dans la suite un petit peu de nos travaux antérieurs, et à partir donc de l'approche que vous a présenté Patrick, qu'on appelle un peu pompeusement relationnel et contextuel, c'est-à-dire de se dire que les processus de construction des inégalités scolaires relèvent de rencontres entre des ressources, des dispositions, des modes de faire du côté des élèves et des ressources, des modes de faire et des dispositions du côté des enseignants. Les uns et les autres, élèves et enseignants, n'étant pas simplement des individus agissant, mais étant agissant au travers de cadres sociaux, d'idéologies. On n'est pas affaire à des questions individuelles, même quand on regarde, ou simplement individuelles, même quand on regarde des personnes individuelles ou des interactions entre personnes individuelles. Donc, relationnel, c'est cette rencontre-là. Donc entre ce que les uns et les autres importent de leur socialisation en tant qu'élèves, en tant qu'enfants, en tant qu'élèves, en tant qu'enseignants, en tant qu'agents sociaux. Et puis contextuel, c'est qu'on s'attache à regarder un petit peu avec plus ou moins de facilité, peut-être plus ou moins de bonheur, comment ces choses-là se jouent. Alors soit dans des contextes différents, quand on essaie de regarder ou de comparer, par exemple, si on prend des catégories un peu grossières, ZEP or ZEP, ou milieu populaire et milieu moins populaire, avec aussi, donc là on est dans des comparaisons plutôt synchroniques, mais aussi on s'interroge, alors c'est plus difficile à mener, sur comment pouvoir mener des comparaisons diachroniques, et en se demandant si parmi les choses que l'on observe, et que je vais vous parler aujourd'hui, on n'a pas quelque chose qui relève, alors au choix, notre vocabulaire n'est pas stabilisé parce que ça appelle des recherches complémentaires, mais de nouveaux genres enseignants, de nouvelles formes de discours pédagogiques, de variations de la forme scolaire, de modes de pédagogie implicite, peut-être dominants et liés peut-être au rapport à la scolarisation des classes moyennes. Donc vous voyez, des choses encore pas très bien stabilisées, mais qui nous incitent à penser que, et ça va me permettre de revenir un petit peu sur les controverses que notre bouquin a soulevées et que Patrick rappelait, d'une part, ce qui nous intéresse, c'est moins des pratiques que des processus et des régimes de détermination de ces processus qui ne relèvent pas simplement des personnes, voire même dont on peut penser, alors c'est pas évident à dire ici, qu'elles ne relèvent pas simplement de processus de formation, mais de processus sociaux plus larges, ce qui ne veut pas dire que les processus de formation sont indifférents à ça, et que sinon vous ne seriez pas là, ni moi non plus. Donc c'est moins des pratiques que des processus et des régimes de détermination qui instruisent, qui trament, qui donnent forme à ces processus, hétérogènes, hein, j'y reviendrai, mais aussi ce qui nous intéresse, y compris quand on fait l'hypothèse qu'on a peut-être de nouvelles manières de faire l'école, de nouveaux genres enseignants qui empruntent à ce qu'on a appelé une doxa ou une vulgate alors novatrice, constructiviste, etc. J'y reviendrai encore. Ce qui nous intéresse, c'est pas de regarder, d'épouser les figures, ce que j'appelle les figures imposées du débat pédagogique, c'est-à-dire les innovateurs contre les traditionnels, les centrés sur le savoir plutôt que les centrés sur les élèves, ou les pédagogues plutôt que les républicains, y compris parce que j'ai essayé de l'argumenter, les processus que nous avons tenter de mettre au jour, on les retrouve de la même manière chez des enseignants qui se revendiquent, ou plus, avec plus ou moins de conviction d'ailleurs, une conviction militante ou conviction simplement d'ordre de sens commun, et sens commun n'étant pas péjoratif là, donc ils se revendiquent d'idéologies pédagogiques extrêmement différentes, voire que les figures imposées du débat pédagogique présenteraient comme contraires ou contradictoires. Donc notre bouquin n'est pas du tout, contrairement à ce que certains ont cru y voir, alors ça, peut-être qu'on l'a mal écrit, c'est autre chose, mais c'est pas du tout un bouquin qui s'attaquerait aux pédagogies nouvelles ou autres, c'est pas du tout notre objet. C'est très clair pour... Alors, donc on a regardé ce dont je vais vous présenter les conclusions. On a regardé des classes sur la durée. Alors des classes, ce que je vais vous dire, se base essentiellement sur des observations longues menées dans des classes de maternelle et de primaire. Mais on avait pas mal travaillé sur le collège avant. D'autres ont travaillé sur les SECPA, ce qui nous laisse penser que ce qu'on a trouvé n'est pas très propre à l'enseignement primaire. Et on a travaillé sur la durée, c'est-à-dire ce qui... Patrick a dû vous le dire, notre réseau essaie de croiser à la fois des regards plutôt de type sociologique qui s'intéressent donc à la question des inégalités sociales, éventuellement des inégalités de genre, qui se croisent d'ailleurs. Vous savez quand même que les victimes de la grande difficulté scolaire sont massivement les garçons de milieux populaires, et que les filles s'en sortent plutôt mieux que les garçons, et que l'écart en faveur des filles est d'autant plus grand qu'on est dans les élèves les plus en difficulté, enfin, qu'on est dans les catégories sociales les plus populaires. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Ouais, donc on a regardé sur la longue durée et en croisant donc des regards plutôt et des interrogations plutôt d'ordre sociologique et plutôt d'ordre didactique, nos questions sociologiques amenant nos collègues didacticiens à se déprendre un petit peu de la posture naturelle qui est la leur, qui est de raisonner sur l'élève générique, en regardant non pas l'élève mais les élèves, ou pas simplement l'enseignant mais les modes de faire enseignant au regard des différentes catégories d'élèves. Et puis, le travail avec les didacticiens, amenant ceux d'entre nous qui sont plutôt, on va dire, d'orientation sociologique, à s'intéresser peut-être de plus près que ne fait la sociologie de l'éducation, aux pratiques, aux contenus, aux objets de savoir, et à rentrer un petit peu dans le détail de la cuisine, des activités de classe. Et on a regardé des choses sur un temps long. Alors c'est ça qui nous paraît intéressant, c'est-à-dire ce qui nous a occupé, c'est de regarder des mêmes classes pendant des dizaines d'heures réparties, alors regarder, enregistrer, regarder au moment où la classe se déroule, et puis 5 fois, 10 fois, 15 fois après coup, évidemment, ce qu'aucun enseignant n'a le luxe de faire concernant sa propre classe, ni même aucun inspecteur n'a le luxe de faire concernant les classes dont... des circonscriptions dont il a la charge. Et on a regardé ça à la recherche de phénomènes de récurrence. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est la récurrence. Et l'hypothèse, qui nous semble corroborée par nos observations, c'est qu'au-delà de la spécificité disciplinaire, si on peut parler de discipline à l'école primaire, mais au-delà de, on peut dire, la spécificité des objets, qu'on travaille sur la grammaire, sur les mathématiques ou autres, au-delà des moments ou des types d'activités, on observe des choses récurrentes, on pourrait dire des sortes de formats d'interaction entre enseignants et différentes catégories d'élèves, dont on peut faire l'hypothèse qui nous semble assez robuste, qu'elles contribuent à faire que les élèves ne se voient pas offrir, et donc n'ont pas la possibilité de fréquenter, les mêmes univers de savoir. C'est-à-dire, j'y reviendrai tout à l'heure, on observe qu'il y a des sortes, ce qu'on a appelé, des sortes de contrats didactiques différentiels au sein de la classe, et qu'à l'insu des principaux protagonistes de la classe, eh bien, de fait, ce qui se passe entre un enseignant et différents types d'élèves ne construit pas les mêmes opportunités de travail intellectuel et d'apprentissage pour les élèves. Et que ça se joue massivement en défaveur des élèves les plus démunis. Et c'est, je dirais, pleut toujours où c'est mouillé, donc c'est toujours les mêmes qui profitent. Et donc je vais essayer d'évoquer un certain nombre de choses comme ça. Et que on a trouvé deux types de processus de différenciation, alors qu'on a appelé différenciation passive et différenciation active, et qui s'alimente, donc j'annonce un petit peu ce que je vais essayer de présenter, qui s'alimente à des processus de nature hétérogène. Vous voyez, regardez sur la longue durée, la récurrence permet de regarder, de voir que ce nous ensemble dans ce que j'ai appelé ces formats d'interaction différenciés, ces contrats didactiques différentiels, ces modes de faire différenciés, se nouent autour de registres très différents, les uns tenant au rapport compliqué entre tâches et enjeux de savoir, les autres tenant au rapport plus ou moins bien maîtrisé entre registres proprement scolaires au sens d'une ressaisie de l'expérience ordinaire et expérience ordinaire mobilisée, les troisièmes tenant aux questions langagières, les quatrièmes tenant, on pourrait dire, au type d'encadrement des tâches. Donc je vais essayer de développer un petit peu tout ça en essayant de prendre des exemples à chaque fois. Et je pense que, connaissant bien Marceline, qui a travaillé avec nous dans ce bouquin, qui travaille avec nous d'ailleurs depuis très longtemps, et qui travaille sur les ZEB depuis très très longtemps aussi, Marceline reviendra beaucoup là-dessus. Alors, je précise d'ailleurs que une des choses qui nous permet de penser que nos hypothèses et nos résultats de recherche ont quelque solidité, c'est aussi la convergence avec d'autres travaux antérieurs, soit menés par des collègues sociologues, soit menés par des collègues didacticiens, ou même avec des productions qui sont entre recherche et recherche et expérience, que sont par exemple le rapport d'Anne Armand sur l'éducation prioritaire de 2006, Anne Armand et Béatrice Gilles, qui montrent des choses assez proches de ce qu'on observe. Alors, j'en profite pour faire une petite publicité. Le prochain numéro de la Revue française de pédagogie, et on va avoir deux dossiers consécutifs sur les ZEP. Il y en a un qui comprend un article de Marceline, un article d'Anne Armand, enfin un entretien avec Anne Armand qui revient sur ces choses. Alors, processus de différenciation passive, on a trouvé des choses, et on a pu les documenter, qui relèvent de l'hypothèse que faisaient Bourdieu et Passeron il y a déjà presque 40 ans, donc c'est pas tout à fait jeune, lorsqu'ils expliquaient qu'en fait, un des principaux vecteurs de la construction de l'inégalité scolaire, c'est que le système éducatif a tendance à présupposer ou à attendre de tous les élèves ce dont tous ne disposent pas et ce qu'il ne construit pas chez ceux qui n'en disposent pas. C'est-à-dire, grosso modo, le système éducatif sélectionne sur ce qu'il n'enseigne pas ou peut-être même sur ce qu'il n'a pas conscience que ce devrait être enseigné ou que ce devrait être construit. C'est pas compliqué entre ce qui s'enseigne et ce qui s'exerce, c'est pas... Voilà. Et une sorte de ce que Bourdieu et Passeron appelaient également une pédagogie de l'abstention pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont attendues des élèves, et parfois des micro-choses, hein, mais les micro-choses font parfois des macro-différences, et que tous les élèves ne sont pas à même de mettre en œuvre dans les activités qu'on leur propose, mais sur lesquelles on n'attire pas nécessairement leur attention, voire même sur lesquelles l'attention des enseignants n'est pas peut-être pas suffisamment attirée. Alors je vais en prendre quelques exemples, et ça se joue beaucoup, ce type de choses-là, particulièrement au premier niveau d'enseignement, sur deux choses, sur l'enchaînement des tâches, les unes avec les autres, et sur le rapport entre tâches. Alors, quelle que soit la nature des tâches, qu'elles soient des plus traditionnelles aux supposées les plus innovatrices, hein, que ce soit de pédagogie, l'exercice et de la transmission frontale ou la pédagogie du projet avec toutes les tonnes de guillemets qui s'imposent sur chacune de ces caractéristiques. Donc, dans l'enchaînement des tâches et dans le rapport entre les tâches elles-mêmes et les enjeux d'apprentissage supposés visés. Alors, on peut en prendre quelques exemples. Il y a un très bel exemple à l'école maternelle. Alors je pense que Marceline y reviendra. J'en prends deux. Le premier, c'est, alors c'est pas Marceline, peut-être elle l'évoquera, mais c'est la thèse de quelqu'un qui s'appelle Christophe Joigneau, qui a travaillé chez nous sur l'école maternelle, et qui montre, par exemple, en s'intéressant à une tâche extrêmement banale dans grande section d'école maternelle, voire à l'école primaire, qu'est cette tâche où on distribue aux élèves une phrase modèle. J'ai oublié le, mais avec un sujet, un verbe, un complément, ou deux compléments, un complément d'objet direct, un complément de lieu, etc. Et puis, on leur donne une autre bande de papier sur laquelle sont reproduits les mêmes mots de la phrase, mais dans le désordre. Il faut qu'ils découpent et qu'ils remettent dans l'ordre. Les tâches, n'importe quelle personne qui a mis les pieds dans une école maternelle plus d'une journée a vu cette tâche-là, à peu près. Donc, alors, elle est ni innovatrice, ni traditionnelle, peu importe comment on la qualifie. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que la consigne, et la consigne est pertinente, c'est de découper, de positionner, de repositionner en s'aidant de la phrase modèle. Et puis la consigne, c'est d'appeler la maîtresse lorsque on croit avoir bien positionné, et de manière à ce qu'elle valide l'ordre. Et puis après, il faut coller les mots découpés sur une phrase, sur une bande, une feuille de papier pour Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder, voilà. Donc, ça, c'est la quantité. Et c'est pour le maître, pour la maîtresse, qui gère différents ateliers. Voilà, c'est une tâche en atelier, qui est la forme devenue dominante à l'école maternelle, j'y reviendrai, forme scolaire. Donc, pour la maîtresse, c'est une activité de prélecture. Et donc, l'ensemble de ces tâches est organisé, hein, de manière à construire des premières conceptions de ce que c'est que l'écrit, de ce que c'est que l'enchaînement des mots dans une phrase. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de regarder ce que font des élèves différents lorsqu'ils sont seuls à gérer cette tâche. Comme c'est souvent le cas dans un atelier, donc c'est une tâche qui est faite en atelier, mais un atelier secondaire, c'est pas celui qui pilote directement la maîtresse. Et donc la maîtresse vient valider le travail une fois qu'il est fini. Donc Christophe observe deux élèves voisines, copines, l'une qui va garder pendant toute la durée du travail la phrase modèle dans son champ de vision, et qui va s'arranger, qui a compris, grosso modo, que la tâche de découpage n'est qu'une composante d'une tâche plus large, et qui donc, on la voit, qui s'arrange pour plier la bande de papier sur laquelle les mots sont dans le désordre, de manière à pouvoir les découper dans l'ordre même de la phrase modèle. Donc elle ne les découpe pas dans l'ordre où ils sont dans la phrase dérangée, j'ai envie de dire. Alors que sa copine, pour qui il n'est pas du tout évident que la tâche de découpage soit au service d'une tâche globale, elle va les découper successivement. La première, au fur et à mesure que les mots sont découpés, les positionne au regard de la phrase modèle. La seconde, qui par ailleurs est plus malhabile que la première pour découper, va non seulement faire la manière dont elle va procéder va faire que très rapidement la phrase modèle est en dehors de son champ de vision, et elle va découper les mots de telle manière qu'ils s'empilent les uns sur les autres. Parce que la tâche de découpage est pour elle une tâche en soi qui est à effectuer, puis une fois qu'elle est finie, on passe à une autre, mais le rapport entre les deux n'est pas construit. Si on regarde, on continue à regarder, donc la première a positionné ses mots au fur et à mesure, et puis la seconde, une fois qu'elle a son tas de mots, et qu'elle n'a plus la phrase modèle dans son champ de vision, elle est fort dépourvue pour savoir quoi faire. Et quelles sont les ressources dont elle dispose? La maîtresse, je vous rappelle, régule un autre atelier en titre dominant. Les ressources dont elle dispose, comme c'est grosso modo, de regarder ce qu'a fait sa voisine et sa copine. Et donc, en fait, elle va positionner à peu près correctement, il y a une inversion, que sa copine va corriger les mots, mais non pas en faisant le travail que la maîtresse présuppose que l'effectuation des tâches réalise, mais en copiant sur sa copine. Donc, on arrive, les mots sont positionnés, les deux élèves appellent la maîtresse qui survient, qui valide l'ordre de la première et qui, regardant avec la première élève, rectifie avec la première élève la petite inversion qu'a commise la seconde. Donc l'ordre est trouvé et elle dit « Allez-y, vous pouvez coller ». La première élève prend chaque mot séparément, met un petit point de colle et repositionne les mots. La deuxième élève, au moment de coller, fait comme ça et défait complètement l'ordre des mots. Parce que, là encore, la tâche de coller est une tâche autonome. Allez, donc ce simple exemple-là, je vais pas, comme je bouffe mon temps, je vais m'attarder, je vais ne prendre que celui-ci. Je laisse la recette de cuisine à Marceline, je suis à peu près convaincu qu'elle vous en parlera demain. Voilà. Ce simple exemple montre bien que, pour la maîtresse, l'enchaînement des tâches va de soi. Pour la première élève, il n'y a pas de problème. Mais pour la seconde, ça ne va pas de soi. Et donc, l'effectuation de la tâche, y compris l'obtention du résultat attendu, pour l'une, est un signe assez manifeste que le travail présupposé d'enchaînement des tâches, de travail sur l'écrit, qui était donc sous-entendu par le choix que la maîtresse a fait de cette tâche et à peu près fait correctement, pour la seconde, pas du tout. Et comme on a un mode de régulation des tâches à distance, où la maîtresse ne voit que le résultat des tâches et pas le travail, alors on peut valider un résultat qui ne correspond pas du tout au travail attendu. Pourquoi ? Parce que l'enchaînement des tâches et alors, encore notre vocabulaire n'est pas... est transparent pour la deuxième élève, où c'est-à-dire qu'elle ne le voit pas, elle ne le perçoit pas, mais s'il est transparent pour le deuxième élève, c'est aussi parce qu'il est transparent pour la maîtresse. Parce que pour elle, c'est tellement évident, et c'est tellement évident pour la plupart des élèves qui sont familiarisés avec l'écrit en dehors de l'école et avant l'école, qu'elle peut légitimement présupposer que c'est évident, ou assez largement évident, pour une bonne partie des élèves, sauf que ceux pour lesquels ça ne l'est pas, ça ne leur est pas enseigné, au sens où ça ne leur est pas désigné comme objet d'activité intellectuelle, éventuellement objet d'apprentissage. Enseigner, c'est pas forcément faire des discours, enseigner, faire signe. Donc là, on a quelque chose qui est attendu de tous les élèves et qui fait pas objet d'enseignement-apprentissage, qui fait pas l'objet d'une activité conjointe qui désigne cet objet-là comme objet propre à étudier. Je vais prendre un deuxième exemple. Alors, je vais le prendre peut-être de manière un peu plus générale, qui est... des choses qu'on observe assez régulièrement sur des séquences de classe où, de manière, là encore, très récurrente, dans des classes très différentes, là on est en CM2, on a des séquences où, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, on demande à des élèves, on leur donne une liste de mots qui se termine par en leur demandant de les classer par genre et par terminaison. Alors il y a la jetée, la pitié, la bonté. Enfin, bon. Et donc il y a tout un travail, il y en a plusieurs dizaines. Et donc la première tâche, voilà, à partir de laquelle l'enseignante pense qu'elle va pouvoir construire des règles, c'est de classer dans un tableau les mots. Dans l'ensemble, donc masculin, féminin, et puis le type de terminaison. Et cette activité de classement, pour l'enseignante, c'est une activité un peu d'observation, une activité d'orthographe ou de pré-orthographe, qui vise à déterminer ensuite des principes, des règles, sur comment on écrit les différents mots, y compris, c'est un exemple un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'exceptions à ces règles d'orthographe. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans ce type d'activité, on en a des tas d'autres où il s'agit de faire des choses, on demande aux élèves de faire des choses individuellement ou éventuellement en petits groupes, et puis il y a un moment donné où, à partir de ce faire, il s'agit pour l'enseignant, éventuellement en s'aidant des élèves, éventuellement même en confiant la charge à des élèves, de tirer des règles plus générales de l'activité qui a été faite. En l'occurrence, ici, une activité de classement. Eh bien, ce moment... Alors ça, c'est quelque chose qui concerne aussi bien les choses assez traditionnelles que nombre de démarches plus innovantes que l'on peut voir, y compris dans certains mouvements pédagogiques. Moi, je travaille beaucoup avec le GFEN, c'est une des choses sur lesquelles on discute beaucoup. Voilà. Il y a un moment donné où, quand il s'agit de tirer une règle, on change de registre. Il se produit ce qu'on appelle une dénivellation de l'activité. On ne fait plus le même type de travail. Mais le problème, c'est que l'enseignant passe rapidement d'une première activité qui est, on pourrait dire, support et prétexte à la seconde. Il passe donc de cette première à la seconde, parfois sans beaucoup de précautions, sans désigner qu'il s'agit d'un autre type d'activité qui prend le premier comme objet de réflexion. C'est-à-dire ce qui relève de ce qu'on appelle, nous, un processus de secondarisation. C'est-à-dire ce qu'on vient de faire, les actions que l'on vient de faire doivent devenir objet de réflexion pour un deuxième type d'action. Eh bien, ce passage-là, il est souvent peu explicité. Là encore, il est présupposé comme allant de soi dans les modes de faire ordinaires. Et il va de soi pour un certain nombre d'élèves. Mais il ne va pas de soi, là encore, et pour le même type d'élève pour lequel qui continue, qui découpe en assimilant. Et donc, on a des élèves, par exemple, qui, lorsque l'enseignante passe à ce registre seconde activité, qui disent « Mais madame, on n'a pas tout classé ». C'est-à-dire qu'ils ont pensé, et on ne voit pas pourquoi ils n'auraient pas pensé ça, que l'activité première devait être finie, que tous les mots devaient être classés pour pouvoir éventuellement faire autre chose. Or, pour l'enseignante qui vise à tirer des règles, peu importe s'il en reste 5 ou 6, si on en a suffisamment pour tirer les règles, pas de problème. Et on observe, moi j'ai observé, je travaille sur l'enseignement de la philosophie, le même type de choses dans l'enseignement de la philosophie, alors évidemment sur d'autres objets, ou dans des tas de classes, on va solliciter des élèves des exemples, par exemple tirer de leur expérience ordinaire ou tirer de leur expérience littéraire, etc. Et puis, à un moment donné, où l'enseignant passe à autre chose, où il s'agit de généraliser, etc. Ben, ce passage-là, cet enchaînement de tâches qui va renvoyer à des enjeux de savoir au-delà de l'effectuation du premier temps de travail, est rarement, là encore, pensé, organisé comme objet de travail. Il est souvent transparent, considéré comme allant de soi. Et or, il ne va pas de soi. Ce passage que nous appelons passage d'un registre premier d'activité à un registre second, où ce qui était outil pour l'action dans le registre premier doit devenir objet de réflexion, objet de pensée, est quelque chose sur lequel achoppent régulièrement les élèves les plus en difficulté. Et c'est quelque chose qui fait peu l'objet de traitement didactique. Donc là, on a des processus que j'appelle processus de différenciation par défaut, c'est-à-dire on attend des élèves qui fassent des choses qu'on ne leur désigne pas comme étant à faire ou comme étant à apprendre à faire. Et parfois même dont on néglige qu'ils soient à faire ou à apprendre à faire, parce qu'ils sont tellement évidents pour l'ensemble de la communauté des lettrés. Et qu'ils sont évidents pour une partie des élèves, c'est ça le paradoxe. La scolarisation de masse et le fait qu'on a aujourd'hui des familles, y compris dans les familles populaires, des habitudes liées à la littératie, à la culture lettrée, bah font qu'un certain nombre d'élèves, même dans les milieux populaires, sont entraînés à ça en dehors de l'école. Et donc on pourrait croire qu'on pourrait se dispenser de désigner ça comme objet de traitement didactique. De la même manière que bon nombre d'outils de ce type-là sont aujourd'hui dans toutes les familles, ça ne veut pas dire que la maîtrise de l'acte graphique est construite dans les familles. Or, c'est un des objets, c'est un des seuls registres où le niveau baisse. Non, il y a deux choses dans lesquelles on sait que le niveau baisse. c'est la maîtrise du graphisme et la maîtrise d'orthographe. Et comme tout le monde sait plus ou moins servir d'un stylo avant même que d'arriver à l'école, et, ben c'est moins objet d'attention à l'école aujourd'hui et dans la formation des maîtres aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et on aboutit à ce que des élèves, observez les élèves de lycée, voire de lycée professionnel, on a des élèves, voire à l'université, ça arrive, on a des élèves qui écrivent de telle manière, de manière tellement malhabile qu'ils ne peuvent pas prendre de notes efficaces, y compris s'ils comprennent le cours. Alors, il se trouve que la plupart du temps, c'est ceux qui ont le plus de mal à saisir le cours. Et donc, mais au niveau même de la maîtrise qui permet d'écrire rapidement comme on fait pour prendre des notes, et là, c'est très massivement masculin. Regardez les copies. En général, on n'a pas beaucoup de mal si on trouve des copies anonymées à savoir si c'est un garçon ou une fille dans les modes d'écriture. Je reviens, donc, deuxième type de processus. Donc, ouais, donc voilà, là on retrouve, mais on documente sur des choses très précises ce que Bourdieu-Passeron disait, voilà, pédagogie de l'abstention pédagogique. On exige ce qu'on ne construit pas comme étant à faire ou à apprendre à faire. Deuxième type de processus, parce qu'évidemment, cette thèse, c'est ce que a été vulgarisé les travaux de Bourdieu-Passeron, mais Bourdieu-Passeron, c'était une hypothèse, hein, il ne décrivait rien. 70, ils avaient rarement mis les pieds dans les classes. Aujourd'hui, on peut largement la documenter. Et cette thèse était un peu popularisée ou médiatisée sous la thématique de l'indifférence aux différences. Voilà. Or, mais aujourd'hui, évidemment, plus personne ne pourrait dire que l'école, la formation des enseignants ou les enseignants sont indifférents aux différences, y compris avec la vogue de la pédagogie différenciée, l'individualisation, toutes ces choses très très fortement diffusées dans les discours, mais pas nécessairement toujours très conceptualisées. Donc on a le souci largement partagé par tous les enseignants d'être attentif aux différences, de s'adapter aux différences, etc. Mais la question, c'est à quoi on s'adapte? Comment on perçoit les différences? Quel type de différences sont ou d'inégalités sont les plus pertinentes au regard de la question des apprentissages? Et comment on s'adapte à ces différences? Et ce qu'on observe de manière, là encore, assez récurrente, c'est des modes d'adaptation qui relèvent de ce qu'on appelle donc un deuxième processus de différenciation là, active, c'est-à-dire le fait que les modes d'adaptation les plus courants et les plus récurrents aux difficultés réelles ou supposées des élèves sont des modes d'adaptation qui n'aident pas les élèves et qui entérinent leurs difficultés ou les inégalités plus qu'elles ne les affrontent. Avec plusieurs types de choses qui est souvent des logiques alors soit de morcellement des tâches et des activités, c'est-à-dire que le souci légitime de préserver la qualité du rapport pédagogique, de permettre aux élèves de préserver leur estime d'eux-mêmes en réussissant un certain nombre de choses ou de tâches, conduit, et là encore, Anne Armand l'avait largement observé aussi, et d'autres travaux l'avaient largement observé, conduit assez fréquemment à morceler les tâches que l'on propose aux élèves les plus en difficulté en micro-tâches qu'ils peuvent réussir, et qu'ils peuvent y compris réussir les unes après les autres, sans pour autant que ces micro-tâches, que l'effectuation de ces micro-tâches conduisent à des apprentissages durables et à des acquisitions qui perdurent au-delà de l'effectuation des micro-tâches. Alors micro ou macro d'ailleurs, parce que dans les certains modes de réalisation d'une pédagogie de projet, on peut se demander, et je crois qu'on doit se demander, même si c'est parfois un peu brutal quand on pose la question à des gens qui ont passé beaucoup d'énergie à monter des choses qui demandent beaucoup de temps, etc. Qu'est-ce qui demeure pour les élèves en termes d'apprentissage, de disposition à l'étude, une fois le projet est terminé, une fois les tréteaux du spectacle démontés, une fois le journal ou le recueil de textes vendu à des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens de ne pas l'acheter, quand on vend aux parents, etc., qu'est-ce qui reste comme disposition ? Et est-ce qu'il reste les mêmes choses pour les uns ou pour les autres ? Voire même, on pourrait regarder dans les modes de réalisation de pédagogie du projet comment se joue le partage du travail ou la division sociale du travail entre élèves dans la réalisation du projet. Et là, on constate parfois qu'à l'insu de tout le monde, on a des spécialisations des uns dans des tâches, on pourrait dire, de bas niveau cognitif et des spécialisations des autres dans des tâches beaucoup plus exigeantes. Et donc, on a, vous voyez, ces éléments-là sont confirmés à la fois, j'évoquais le rapport d'Anne Armand, mais si on regarde les évaluations nationales, à l'époque où on avait des évaluations nationales fiables, on pouvait constater quand même très massivement que dans, aussi bien en classe de CE2 qu'en classe de 6e, et les évaluations de 6e n'étaient pas des évaluations de ce qui était passé en début d'année, donc elles référaient plutôt à ce qui s'était fait avant, les écarts entre ZEP ou hors ZEP, ou les écarts entre les élèves de milieux sociaux contrastés, étaient très faibles, voire inexistants sur les tâches les moins exigeantes, du type trouver une information explicite dans un texte. En revanche, ils étaient maximaux sur des tâches plus exigeantes, du type faire des inférences entre différents éléments du texte, ce qui fait partie de la compréhension du texte, voire faire des inférences entre des éléments explicites dans un texte et ce qui n'est pas explicite dans un texte et qui en appelle au background culturel nécessaire pour comprendre le texte. Donc toute tâche nécessaire à la compréhension, mais et on peut faire l'hypothèse qu'une des manières dont le système éducatif fait avec la difficulté scolaire, c'est de morceler les tâches et, ce faisant, de réduire les exigences que l'on a à l'égard des élèves. Avec un certain effet de leurre, qui est que des élèves peuvent réussir des tâches sans nécessairement réaliser les apprentissages que l'on présuppose devoir résulter de l'effectuation des tâches, et éventuellement passer de classe en classe, y compris avec des évaluations ou des notes relativement satisfaisantes, sans pour autant avoir acquis ce qu'ils sont censés avoir acquis en passant de classe en classe. Et ça, on l'observe statistiquement. Et ça, c'est des choses intéressantes parce qu'on a des éléments qualitatifs qui sont corroborés par des éléments quantitatifs. Quand on regarde, par exemple, comment je crois que c'était pas le dernier panel donc, qui est encore en cours d'exploitation, mais dans les panels d'entrants en sixième, l'avant-dernier, on constatait, vous savez, c'est les suivis de cohorte que fait le service statistique du ministère, on constatait que les élèves qui se situaient à l'entrée en sixième parmi les 25% les plus faibles aux épreuves d'évaluation nationale allaient plus souvent jusqu'en troisième sans redoubler que les élèves qui se situaient dans les 25% immédiatement moins faibles. Personne ne croira que c'est parce qu'ils ont comblé leur lacune. C'est à la fois parce qu'on a développé ces phénomènes de fausse réussite que j'évoquais, on réussit des tâches mais pas forcément les apprentissages, et puis aussi parce que toute possibilité d'orientation précoce au collège ayant disparu, ce que je ne regrette pas, que les choses soient claires, mais comme on n'a pas trouvé de moyen de traiter la grande difficulté scolaire, eh bien on a substitué un processus d'orientation précoce par l'échec, un processus d'éviction par le haut, et on trouve des élèves, c'est Jean-Paul Lelay qui était inspecteur d'académie en Seine-Saint-Denis il y a quelques années qui racontait cette anecdote, on a des élèves qui se définissent eux-mêmes comme élèves TGV, c'est-à-dire qui ont pris conscience que c'est les élèves que l'on fait passer le plus vite possible pour s'en débarrasser, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, voyez, et on trouve des choses, moi je me souviens lorsqu'on avait fait une enquête secondaire sur PISA dans un collège ZEP, bien ZEP de la Seine-Saint-Denis, et on trouvait par exemple en fin de quatrième des élèves qui des bulletins trimestriels ou des élèves qui avec 6,5 ou 7 de moyenne se voyaient proposer un passage en classe de troisième à l'ancienneté, c'était écrit à passage à l'ancienneté sur le bulletin, ce qui vaut au moins le mérite de la franchise, alors que des élèves de la même classe entre 8 et 9 se voyaient proposer un redoublement. Ouais, donc on a d'une certaine façon une régulation du système éducatif qui marche sur la tête. Que peut penser l'élève qui a 8,5 de moyenne auquel on propose un redoublement alors qu'on propose à son copain qui a 6,5 de passer dans la classe, quoi. Donc on a ces éléments-là contribuent à une sorte de divorce entre parcours des élèves et réelles acquisitions auxquelles contribuent ces phénomènes de fausse réussite que j'évoque liés au morcellement des tâches et à une certaine, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, tendance à la restriction des exigences que l'on a à l'égard des élèves les plus en difficulté. Je termine sur cette chose-là en disant que les 25% des élèves les plus faibles aux enquêtes nationales représentent 43% des élèves de 6e de ZEP. Et dans certains collèges, c'est 80%. Et là, on a des effets de contexte qui font que, vous voyez, on n'a pas simplement affaire à des pratiques, on a affaire à des effets de contexte parce que les enseignants, faute de pouvoir être instrumentés, outillés professionnellement, conceptuellement, pour faire autrement, sont contraints de faire. Donc, ce n'est pas simplement faire de la morale aux enseignants ou préconiser des bonnes pratiques indépendamment des contraintes de contexte qui sont les leurs. Voilà, donc ces deux processus de différenciation voilà, qui amènent à penser qu'on a... on observe ce que j'ai appelé tout à l'heure des contrats didactiques différentiels, c'est-à-dire on peut l'observer, par exemple, quand on regarde un même enseignant enseigner à des classes différentes. Alors ça, en primaire, on arrive, on peut pas le faire, mais en collège, on peut le voir quand on voit un enseignant qui a une bonne classe de sixième, une bonne sixième, une mauvaise sixième, avec les termes du cru, du milieu. Voilà. Alors parfois, les bonnes et les mauvaises classes de sixième, elles sont construites socialement et institutionnellement par le jeu des langues vivantes, le jeu, les horaires, les classes à aménagement musical et art plastique ou autres. Ou les classes européennes, hein, dont certains élèves traduisent les classes pour européens. Parce que les constructions sociales sont aussi liées à d'autres variables. Hein. Donc, on peut l'observer quand on a des choses comme ça, et on peut l'observer, ces contrats didactiques différentiels, à l'intérieur d'une même classe, quand on regarde sur la durée, comment se construisent ce qu'on appelle donc des formats, c'est-à-dire des schémas d'interaction pérennes, qui ont une relative récurrence entre un enseignant et différentes catégories d'élèves. Et quand on regarde, par exemple, sur quel type de tâches sont mobilisés les uns ou les autres, quel type d'aides sont apportées aux uns ou aux autres, quel type d'outils leur sont fournis. Alors, je vais en donner quelques exemples. Donc, dans une classe, hein, mais la difficulté avec les récurrences, hein, c'est qu'on ne peut pas les donner à voir. On ne peut donner à voir que des exemples de récurrence en vous demandant de nous faire confiance pour dire que l'exemple qu'on vous donne, ce n'est pas un exemple anecdotique, c'est un prototype d'une série régulière de cas semblables. Mais là, je vais quand même donner des choses dans ce qu'on observe dans une classe, mais qu'on a observé dans d'autres classes des phénomènes du même type. Lorsqu'on regarde, par exemple, quel type de tâche. Avant de dire ça, ces formats d'interaction durable qui se nouent entre enseignants et certains élèves ou certaines catégories d'élèves se nouent à l'insu de leurs protagonistes et d'une certaine façon à la satisfaction générale de tous. Et c'est d'une certaine façon peut-être le regard extérieur, le fait que quand on observe des classes, observer une classe, c'est ne pas avoir la responsabilité de la conduire, donc c'est quand même un luxe considérable. Et on peut ne regarder que ce qui nous intéresse. Voilà, l'enseignante a tout à gérer en même temps. Voilà. Et puis en même temps, on l'observe au moment où l'enseignante la conduit, puis on la dissèque pendant 15 heures, 20 heures, à plusieurs, après. Donc si on peut voir des choses que l'enseignante ne voit pas, c'est pas parce qu'on est plus malin qu'elle, c'est parce qu'on s'est donné des outils méthodologiques pour le voir qu'elle n'a pas. C'est important de le préciser quand même. Donc première chose, si on regarde quel type de tâches sont confiées aux élèves. Alors j'en prends des exemples donc dans cette classe. Hein. Par exemple, dans un travail sur un texte à l'imparfait. On travaille sur l'imparfait, à repérer quels sont les verbes à l'imparfait et à les catégoriser dans les deux modes d'usage de l'imparfait en français, qu'est l'imparfait de durée ou l'imparfait d'habitude. Il mangeait sa soupe quand soudain le chien renversa la table, etc. Ou tous les matins, il allait prendre son petit noir au zinc du coin, etc. Et donc, on a un texte, la classe a travaillé sur un texte long, qui est censé avoir été compris par tous les élèves, qui a au moins été paraphrasé par la classe de telle manière que son contenu informatif, soit à peu près compris par tous les élèves. Ce n'est pas tout à fait la même chose que comprendre un texte, mais ce n'est pas grave. Et donc, l'enseignante demande aux élèves, la tâche qu'elle fait à l'oral, c'est qu'elle demande aux élèves, à chaque élève individuellement, de lire une partie du texte et de repérer quels sont les verbes à l'imparfait. Et si les verbes à l'imparfait qui figurent dans la partie du texte qu'ils viennent de lire à haute voix relèvent de l'imparfait de durée ou de l'imparfait d'habitude. Eh bien, donc je vais prendre deux élèves, qu'on a appelés l'une Charlotte, l'autre Awa, qui sont l'une plutôt une très bonne élève. On est dans une classe... Pas ZEP, mais qui pourrait être ZEP plus, quoi. Donc, on a une classe un peu hétérogène, milieu populaire, mais plus d'hétérogénéité que la plupart des ZEP, ou que la plupart des ZEP de la région parisienne. Voilà. Donc, Charlotte, bonne élève. Awa, plutôt élève en difficulté. Charlotte, plutôt classe moyenne, non immigrée. Awa, milieu populaire. La caricature statistique, enfin les pôles statistiques, ouais. Mais les caricatures ne font que forcer les traits. Hein. Donc, sur ce travail-là, Charlotte, alors c'est la maîtresse qui scande le moment où les élèves commencent à lire et où elle les arrête. C'est elle qui les arrête de lire. Hein. Charlotte a à lire une portion de texte dans laquelle figurent, si je me souviens bien, 8 ou 9 verbes, dont tous ne sont pas à l'imparfait, et ceux qui sont à l'imparfait relèvent des deux catégories d'imparfait. Awa a à lire une portion de texte extrêmement courte, dans laquelle ne figure qu'un verbe qui est à l'imparfait. Donc, eh bien, le travail qui est demandé... évidemment, si on interroge la maîtresse, elle dit que comme elle sait que Charlotte est une bonne élève et qu'Awa est en difficulté, il ne faut pas mettre Awa en difficulté. Mais ne mettant pas Awa en difficulté, en fait, elle ne la met pas en travail. Donc, deuxième exemple, le dictionnaire est un outil d'usage récurrent dans cette classe, peu importe ce qu'on en pense pour le propos qui est le mien pour le moment, et une bonne partie du travail de découverte d'un texte est explicitement la tâche de chercher dans le dictionnaire les mots qu'on ne connaît pas, les souligner dans le texte. Je passe sur le fait que plus les élèves sont bons et plus ils repèrent les mots qu'ils ne connaissent pas. Et les élèves les plus en difficulté sont ceux qui ne soulignent que très peu de mots qu'ils ne connaissent pas. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans la classe, il y a plusieurs types de dictionnaires. Alors, qui viennent soit parce que le font, soit parce que les élèves ont eux-mêmes amené un dictionnaire de chez eux. Et il y a des dictionnaires très proches du format dictionnaire adulte et des dictionnaires beaucoup plus enfantins, ce qui fait que les élèves, comme Charlotte, travaillent sur des dictionnaires complexes et lorsqu'ils cherchent des mots, il y a par exemple, dans un des exemples, il faut s'interroger sur le mot « légende », voilà, et confronter à plusieurs sens du mot « légende ». Entre le terme le plus pertinent pour le texte, c'est le terme le plus courant, c'est la légende d'Ulysse ou je ne sais quoi. Voilà. Mais ce n'est pas la légende du schéma. Voilà. Mais elle est confrontée à un dictionnaire où il y a les plusieurs sens. Donc, pour trouver le sens pertinent, elle est obligée de travailler sur plusieurs sens. Alors qu'Awa travaille avec un dictionnaire dans lequel il n'y a que le sens le plus courant du mot légende, ou dans lequel il y a d'autres mots compliqués ne figurent pas. Donc là encore, le travail demandé informellement à l'une et à l'autre n'est pas de même nature. Autre exemple, dans les modes d'aide, une tâche toujours de grammaire où il faut travailler sur les propositions principales et subordonnées. Et donc, on a des phrases du type « Il ne faut pas réveiller le coyote qui dort » ou « Mon père qui est sous-chef de bureau aurait aimé être cow-boy solitaire », etc. Donc, on a fait, il y a tout un travail qui a été fait sur la proposition principale a un sens en elle-même, la proposition subordonnée n'a pas de sens en elle-même. Voilà. Si vous lisez, si je reprends mon exemple, mon père qui est sous-chef de bureau aimait être cow-boy solitaire, qui est sous-chef de bureau, ça n'a pas de sens en soi. Par contre, mon père aurait aimé être cow-boy solitaire, ça marche tout seul. Voilà. Et donc, ce travail-là est supposé avoir été compris par les élèves, et donc la maîtresse demande aux élèves, donc leur fait lire une phrase et leur demande de trouver la proposition principale, la proposition subordonnée, et de trouver le subordonnant, c'est-à-dire ce qui introduit la subordonnée. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour les élèves comme Charlotte, elle ne guide pas l'activité, alors que pour les élèves comme Awa, à l'oral, c'est elle qui fait le découpage en propositions. À propos de la phrase « Il ne faut pas réveiller le coyote qui dort », donc la maîtresse, alors, donc elle a sollicité une élève, alors c'est pas Awa ce coup-ci, mais c'est une élève qui est proche d'Awa, elle lui demande la question « Si je dis « Il ne faut pas réveiller le coyote », est-ce que tu comprends ?» Donc évidemment, l'élève répond « Oui ». Donc la proposition se suffit elle-même, donc c'est... Vous voyez, donc tout le travail, toute la difficulté du travail qui est de segmenter la phrase en proposition pour déterminer laquelle est la subordonnée et laquelle est la principale, est fait par la maîtresse dans les modes de gestion de l'interaction. Pour les élèves les plus en difficulté, comme Awa, et ici Johanna, etc., alors que pour les élèves comme Charlotte, elle laisse cette tâche à faire par les élèves. Donc là, vous voyez, on a des choses récurrentes qui font que régulièrement, le choix des tâches, le contrôle de proximité là dans le découpage de la proposition, ou au contraire l'absence de proximité dans la liberté d'usage des différents dictionnaires qui sont à disposition dans la classe, fait que les uns et les autres peuvent aboutir là encore à la même réponse, mais ne font pas le même travail, ne sont pas sollicités pour faire le même travail. Troisième exemple, toujours de Ella qui va entrer dans ce que j'appelle ces contrats didactiques différentiels, puis je ne vais pas tarder à m'arrêter, qui relève alors soit de la manière dont on va mobiliser les élèves, vous savez, c'est les gestes professionnels classiques qui font que on mobilise les élèves soit pour eux-mêmes, soit pour faire avancer le travail de la classe. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lorsque on mobilise les élèves sur des tâches ou des exercices avec des enjeux d'apprentissage, les élèves tels que Charlotte sont mobilisés au service du collectif de la classe. Donc, Charlotte va au tableau nous montrer comment tu as fait, ou éventuellement au service d'un autre élève. Charlotte, est-ce que tu peux expliquer à un tel comment tu as fait ? Alors que les élèves tels qu'Awa ne sont mobilisés que dans une intention orientée sur eux-mêmes lorsqu'il s'agit de tâches d'apprentissage. Et la plupart du temps, à partir de leurs difficultés, et sans que ce travail-là ait une visée démonstrative adressée à l'ensemble de la classe. En revanche, ces élèves-là sont mobilisés ou sont pris comme auxiliaires, on peut dire, par l'enseignant, dans une visée démonstrative à l'égard de l'ensemble de la classe, mais sur un registre qui n'est pas le registre des apprentissages, mais le registre du comportement, ou le registre des tâches les plus formelles. Alors ça peut être, alors soit le plus fréquemment sur le registre du reproche ou de « mais Awa, tu as corrigé en rouge, tu sais bien qu'il faut corriger en vert » et formuler de manière à ce que toute la classe entende, c'est-à-dire que cet avertissement ou ce reproche ne soit pas simplement entendu par Awa, ou « tu n'as encore pas mis la marge comme il fallait la mettre », etc. Ou au contraire, mais c'est moins fréquent, pour la féliciter publiquement d'avoir fait ça et donc encourager les autres d'avoir fait ce qui était à faire, mais toujours sur un registre qui est extérieur au travail d'apprentissage. Et également mobilisés au service de la classe sur des tâches matérielles. Et Awa ou Johanna, qui sont parmi les élèves les plus en difficulté dans la classe, sont très fréquemment mobilisées et très contentes de le faire pour distribuer des cahiers, ramasser des choses, effacer le tableau, faire des tâches matérielles qui n'ont aucun intérêt cognitif, mais qui font que, d'une certaine façon, elles ont une place et un statut dans la classe, et ce n'est pas négligeable, je ne dis pas du tout que ce soit sans intérêt, mais on voit se configurer, voilà, sur la durée, le fait qu'à la fin de l'année, eh bien, Charlotte ou Awa ne se sont pas vus proposer le même univers de tâches, et donc le même univers de savoir fréquentable, et n'ont donc pas fréquenté les mêmes univers de savoir, et n'ont pas pu en tirer les mêmes profits cognitifs en termes d'apprentissage. Et ça, encore une fois, à l'insu de tout le monde. Et vous voyez, ça se joue, ces choses-là, sur la nature des tâches et des enjeux de savoir, sur leur cadrage, cadrage très fort de proximité, on découpe, et souvent là, dans des formes d'aide qui n'en sont pas, parce que au lieu d'aider les élèves, l'enseignante prend à sa charge le travail qui pourrait faire difficulté pour les élèves, comme découper les phrases en propositions, ou au contraire, dans des formes de cadrage très lâches, du type l'usage du dictionnaire, ou du type, une fois qu'on a compris tous les mots et éventuellement recopier la définition des mots qu'on ne connaît pas dans un texte, on est censé avoir compris le texte. Et le travail de compréhension est peu pris en charge dans cette classe-là, comme si l'identification du sens des mots d'un texte suffisait à la compréhension du texte. Alors, ça renvoie à des questions de rapport au savoir de l'enseignant, mais aussi à des questions de rapport au type d'élève et aux manières de s'adapter au type d'élève et comment on hiérarchise un certain nombre d'impératifs tous légitimes dans la classe, qui sont de faire que Awa ou Johanna est un statut dans la classe, qu'elle ne passe pas tous les moments de la classe à perdre la face en échouant à des tâches, etc. Mais pour autant qu'elles apprennent. Parce qu'évidemment, on a une espèce de fausse paix sociale avec des élèves comme Awa ou Johanna qui ont un statut, qui réussissent des tâches, mais sans rien apprendre dans la classe, et qui, quand on les suit après, dans la classe de 6e, quand on peut les suivre, ceux qu'on a pu suivre, on observe que là, on a l'effet de leurre qui pouvait être entretenu par ces phénomènes de fausse réussite, cette difficulté à hiérarchiser les différents registres dans l'ordinaire de la vie de la classe. Eh bien, cet effet de leurre se dévoile à l'entrée en 6e pour un certain nombre d'élèves et dans un processus de dévoilement qui est plutôt de l'ordre de l'effraction, c'est-à-dire des élèves qui se croyaient à peu près habillés pour l'hiver se trouve tout nu sur la banquise, et dans des processus qui sont parfois cause de bien plus de ressentiments, éventuellement activateurs de violence en milieu scolaire, que permettant une reprise en main et un travail d'élaboration. Et régulièrement, on observe qu'au changement de cycle, les effets de leurre liés à ces phénomènes de fausse réussite, liés à des processus de différenciation active ou passive que j'ai évoqués, produisent des effets de dévoilement ou d'effraction, alors au changement de cycle, à l'entrée en 6e, à l'entrée en seconde, voire à l'entrée à l'université. Ça veut dire qu'on a des étudiants qui sont dans un état. Et ça se joue également autour des questions de langage. Alors, c'est la dernière chose que je vais dire. On constate aussi de manière très récurrente qu'avec les élèves considérés comme en difficulté ou dans les classes considérées comme en difficulté, on a deux choses, trois. La première, c'est une propension à ne pas utiliser les mots propres au contenu et aux disciplines de savoir. Je prends un exemple, je crois que peut-être Marceline y reviendra. On fait travailler, ou on pense qu'on fait de la géométrie en faisant manipuler des puzzles à des élèves, mais on ne nomme jamais. Vous voyez, on a donc des objets matériels qui sont censés être des objets géométriques qui ne sont pas des objets matériels. Objet géométrique, c'est l'objet idéal. Et par contre, on ne nomme pas. On pourrait penser que c'est pertinent, je ne discute pas la situation, mais ça n'est pertinent que si on nomme dans le vocabulaire de la géométrie les objets. Et donc si on parle de côté des figures, mais pas de bord des pièces du puzzle. Si on parle d'angle droit, et pas de coin. Si on parle d'angle aigu et pas de pointe. Or, on constate de manière là encore récurrente que le registre langagier va se caler sur le registre de la matérialité ou de l'expérience des objets familiers aux élèves, aux enfants que sont les élèves, ou supposés l'être en dehors de la classe, mais que ces objets ne sont pas ressaisis par un travail ou par un vocabulaire propre à la discipline. On observe la même chose dans le souci parfois de contextualiser des activités mathématiques avec dans des contextes de la vie ordinaire qui se perdent dans les contextes de la vie ordinaire et dans lequel les objectifs mathématiques deviennent très très flous. Et de la même manière, du point de vue langagier, on observe dans les classes ou à l'intention des élèves les plus en difficulté une prépondérance, on peut dire qu'un sociologue anglais qui s'appelle Bernstein, qui nous a beaucoup inspiré, appelle je ne sais plus d'ailleurs comment il l'appelle, c'est un trou. Le discours horizontal, qui est un discours de la communication, le discours des échanges ordinaires que l'on a nécessairement entre personnes, et qui est un registre de la communication, avec ce que Bernstein appelle le discours instructeur et vertical, qui est le discours de la discipline, qui est le discours de l'enseignement, qui n'est pas symétrique, qui ne relève pas de la communication ordinaire, mais qui relève de la transmission et qui relève d'un ordre second, hein, qui s'émancipe des situations, des tâches, des contextes, des pièces de puzzle, des contextes d'activités ordinaires qu'on mobilise au service des mathématiques ou de la grammaire, pour pouvoir se situer sur un registre propre aux disciplines qui se sépare des activités premières qu'on a pu mobiliser en supposant qu'ils étaient au service de ce registre second, pour pouvoir anticiper sur des activités à venir. Et si ce travail n'est pas fait, c'est-à-dire de formalisation d'un registre second qui s'émancipe des situations premières qu'on a mobilisées, parfois de manière assez pertinente, parfois de manière plus discutable, pour pouvoir anticiper sur des activités à venir, eh bien, les élèves les plus en difficulté s'y perdent et ne repèrent pas ce qui était à faire. Donc, vous voyez, je m'arrête là. Et simplement pour dire qu'on a le sentiment qu'on a là une sorte de conjugaison de processus qui relève d'un rapport problématique au contenu d'enseignement, d'un rapport problématique au rapport entre tâche et contenu, d'une espèce de vulgate pseudo-moderniste qui se résumerait à dire il faut que les élèves soient actifs pour apprendre, ou participatifs, ce qui est évidemment, aujourd'hui, personne ne va aller à l'encontre de cela, mais actif, on peut être actif, voilà, si Johanna est active pour distribuer, ou Awa est active pour distribuer les cahiers, c'est pas sûr que ça lui apprenne autre chose qu'à distribuer les cahiers. Je prends l'exemple le plus caractéristique. Donc, quelle est la nature de l'activité, quelle est la nature de la participation, voilà. Et puis, d'une espèce là encore faisant partie d'une vulgate aujourd'hui assez dominante, selon laquelle il faut rendre les situations scolaires authentiques ou proches de ce qui est familier des élèves, ce qui n'est pas parfois, qui fait pas parfois toujours bon ménage avec les apprentissages, si ce travail de décontextualisation des contextes à supposer qu'ils soient pertinents, qu'on mobilise, n'est pas fait. Alors, je prends par exemple un exemple dans une des séquences qu'on avait observées. Nos observations sont pour certaines un peu anciennes, où l'enseignante voulait faire travailler sur des calculs de pourcentage à partir du résultat des élections, c'était référendum européen. Et où la leçon qui était initialement une leçon de mathématiques est devenue au fur et à mesure, mais très rapidement, une pseudo-leçon d'instruction civique, et puis une espèce très vite d'aimable conversation sur « moi, mon papa et ma maman, sur l'Europe, ils disent ça ». et où l'objet même mathématique s'est largement perdu, et où l'enseignante, pour récupérer sa séance à la fin, a galopé pour récupérer l'objet mathématique, et elle l'a récupéré avec 3 élèves dans la classe. Les autres étant, ne sachant pas, à la fin de la séquence, étant hors d'état de savoir quel était l'objet du travail. Mais des exemples comme ça, je peux vous en donner en pagaille. Hein, donc, voilà, je m'arrête là.